Théodore de Barville, Le chêne et le roseau. Il y a quelques mois, débuta aux Folies Provence une jeune femme gymnaste nommée Aurélie Guerre, qui avait fait fanatisme à Toulouse dans un cirque ambulant et qui fut signalée à l'intention parisienne par un article élogieux d'Armand Sylvestre. Turbulente, passionnée, facilement furieuse, cette belle personne ressemblait à l'orage et à l'ouragan. Quand elle secouait ses grands cheveux dénoués, on croyait voir planer l'aile formidable de la nuit. Ses yeux lançaient des éclairs, elle cassait volontiers tout ce qui lui tombait sous la main, et rien ne lui était plus habituel que de cravacher un régisseur en plein visage. Toutefois, cette violente devenait précise et calculatrice lorsqu'elle faisait ses exercices et qu'elle s'envolait éperdument à travers les cordes et les trapèzes, s'accrochant aux câbles volants, tantôt d'un seul doigt, tantôt avec ses fortes dents qui facilement eussent coupé du fer. Enfin, tout imprégnée de volupté comme électrique, elle avait le don de créer le désir fou, ardent, inapaisé. Sa chair provocante éveillait tout de suite l'idée des baisers sans nombre, et ses lèvres de pourpre sanglantes ressemblaient à un fruit dans lequel on veut mordre. On sut bientôt, dans le théâtre, que la belle Aurélie avait distingué son camarade Arquevaux. Mais presque en même temps, on apprit qu'elle ne s'était pas montrée cruelle pour le clown Haïtite. Ces deux hommes formaient l'un avec l'autre une parfaite antithèse, trope que les poètes doivent en général dédaigner, comme un peu trop facile et vulgaire, mais que se permet souvent la réalité de la vie. Arquevaux, qui faisait la grande pyramide humaine, portant sur ses épaules autant d'hommes et d'enfants superposés qu'il en peut tenir jusqu'aux frises, et qui faisait partir un canot en le tenant dans ses mains, et qui mimait une scène intitulée « L'enlèvement des Sabines », dans laquelle il enlevait et emportait à lui seul toutes les Sabines, Arquevaux, comme taillé dans une montagne et bâti avec des quartiers de roche, ressemblait servilement au bonhomme de Michel-Ange. Et l'imitation avait été poussée à ce point que la barbe démesurée du Moïse inondait comme un large flot sa vaste poitrine. Au contraire, Fti avait moins l'air d'un homme que d'une fillette mince déguisée en garçon, et une fine moustache noire jetait sur sa lèvre un gracieux fil comme dessiné au pinceau par un habile artiste japonais. Comédien et même excellent, capable de faire songer à Roméo en exécutant un saut périlleux, Fti, qui passait facilement à travers un de ses anneaux dont les jeunes filles se servent pour jouer aux grâces, avait la caressante agilité d'une chatte, et en admirant sa merveilleuse souplesse, le public ne devinait pas ce qu'elle supposait d'énergie virile et de force. À la ville, Efti, grand fumeur de cigarettes, grand liseur de vers dans les langues diverses, qu'il parlait toutes, était vêtu comme un dandy irréprochable et parlait d'une voix molle et attendrie, comme celle de Théophile Gautier. Au théâtre, il se commet presque autant d'indiscrétion que dans le monde. Aussi les deux amis d'Aurélie, Guerre, ne tardaient-ils pas à être mis au courant de leur situation réciproque. Dûment avertis, ils se rencontrèrent sur la scène où errait déjà le directeur Léon Sicre et quelques acteurs, danseuses et mimes, avant une répétition où devaient être mis au point plusieurs exercices nouveaux. Arquevaux, déjà costumé, les bras nus, montrait sous le maillot ses cuisses héroïques de titan. Efti, lui, en habit de ville, tenait dans sa jolie main de femme bien gantée une légère badine. Il s'inclina légèrement devant l'Hercule. « Il paraît, dit-il, que vous avez à me parler. » Oui, dit Arquevaux d'une voix formidable. Mais pour causer avec toi, avec moi, il faut d'abord pouvoir s'amuser avec les joujoux que voici. En parlant ainsi, il désignait du doigt, sur le parquet, des haltères d'un poids énorme, invraisemblable, dont il devait se servir pour la première fois. Il se baissa, les saisit dans ses fortes mains, et se mit à les lever lentement. On vit alors son visage s'empourprer et saillir sur son cou de grosses cordes, et les muscles de ses bras se gonfler en bosses plus dures que les reins. À trois reprises, sans se presser, il leva les haltères au-dessus de sa tête, puis les abaissa jusqu'à ses genoux. Tout le monde tremblait, il semblait qu'on allait voir sa peau éclater et son sang jaillir. Enfin, visiblement là, il reposa les boulets à terre en les faisant presque tomber et du revers de sa main essuya la sueur qui ruisselait sur ses joues. « Ça ?» dit alors dédaigneusement le jeune Efti, et se baissant à son tour, prenant les haltères, il recommença ce que venait de faire Arquevaux, mais en apparence du moins, sans nul effort et comme s'il eût soulevé des plumes ou des balles de laine. Les assistants étaient stupéfaits, et l'Hercule, doutant du témoignage de ses yeux, croyait à quelque jonglerie. « Il ne s'agit pas ici d'escabotage et de vos bêtises de pitre !» dit-il en mordant ses lèvres de rage. Et craignant alors de voir un de ses pantins cassés, Léosic voulut s'interposer. Mais il y renonça prudemment, et les acteurs présents n'osèrent pas non plus se jeter dans une entreprise si périlleuse. Arquevaux montrait ses dents comme s'il eût voulu dévorer le clown, et Efti, lui, souriait finement. « Écoutez, dit l'Hercule, je n'ai qu'un mot à vous dire, c'est que désormais je vous défends de parler hors religaire. Ben, « J'entends bien, dit Efti, mais voilà, c'est que ces mots, je vous défends, lorsque c'est à moi qu'on les adresse, n'ont pas de sens précis et je ne comprends plus bien ce qu'ils veulent dire. « Eh bien, hurla Arquevaux, tu vas comprendre. » Il rassembla ses poings dans une pose de boxeur, et au grand étonnement des spectateurs, Efti ne se mit nullement en garde. Mais au moment où s'abattit le poing formidable, il fit un mouvement léger, imperceptible et si bien calculé que le poing de l'athlète ne frappa que le vide. Et le combat continua ainsi. Vainement, se fiant à son œil exercé, Arquevaux s'élançait juste à point, et son adversaire, insaisissable, se dérobait, s'envolait comme une étincelle, disparaissait comme une fumée. Tantôt il était couché par terre à plat ventre, où il paraissait gracieusement assis au haut d'une porte, entr'ouverte dans le décor. À un moment où il le cherchait, complètement disparu, l'Hercule sentit le clown installé sur sa tête, léger comme une abeille. Il avait beau crier « Je boirai ton sang !» il courait grand risque de mourir de soif. Il n'y aurait pas eu de raison pour que cette lutte impossible finît jamais si la jolie danseuse Paul Girandel n'eût fait ce que personne n'osait faire et ne se fût résolument jetée entre les deux ennemis. Précisément, elle avait tout à fait qualité pour intervenir, car elle connaissait Efti et Arquevaux comme une fillette qui, à un moment encore peu éloigné, n'avait été pour chacun d'eux, assurait-on, rien moins qu'une étrangère. Elle les prit l'un et l'autre par la main, et les amenant sur l'avant-scène, s'efforça de les calmer par de sages raisons. « À quoi bon, disait-elle, ensanglanter cette scène frivole? Y aurez-vous prouvé grand-chose quand Arquevaux aura cassé un bras à Efti ou réciproquement? Je puis, moi, vous proposer une lutte bien plus sérieuse que celle-là, dont les risques sont autrement graves, et où l'un de vous, pour le moins, laissera sa vie. Au lieu de vous disputer, Aurélie Guerre, gardez-la tous les deux. Elle a fait mourir plus d'hommes que la grecque Hélène, et il n'y a pas d'exemple que de ses amants aient duré plus de 15 jours. Vous la connaissez à peine depuis 2 mois fois 24 heures, mais vous la connaîtrez mieux. Si au théâtre elle est un orage, chez elle, elle est une tempête, un tourbillon, un maelstrom. Car s'il est expansif comme Messaline, elle a aussi de la vertu et des remords. Il y a des moments où elle entraîne son compagnon de route à travers les enfers les plus éperdus, d'autres où elle se repent, se jette à genoux et s'arrache les cheveux avec désolation. En sorte que c'est une conversation très fatigante. Prenez garde, si vous n'acceptez pas le duel sur ce terrain-là, je dirais que vous n'êtes pas brave.
Je ne connais aucun genre de crainte, dit Arquevaux. Mais celui de nous deux, qui serait seul et serait son rival avec Aurélie, que deviendrait-il pendant ce temps-là? Faudra-t-il donc qu'il s'amuse à manger des barres de fer ou à mordre des charbons ardents?
Dans ces cas-là, dit Paul Girandel, l'important est de trouver une consolatrice qui touche à vos blessures avec des mains légères. Et pour cela, ajouta-t-elle en baissant modestement les yeux, j'ai à vous offrir une combinaison qui peut-être ne mérite pas d'être dédaignée. La convention fut conclue sur ces bases. À la prière de Léon Sicre, la représentation commença enfin. Les Folies Provence reprirent leur train ordinaire, et ce qui fut vraiment bien théâtre, c'est que pour ne pas empêcher la scène à faire d'être faite, personne n'avertit Aurélie Guerre. Elle put croire qu'elle trompait ses deux amants, et elle fut toujours désordonnée, violente, mais pas plus qu'à l'ordinaire. Arquevaux et Efty, à la grande joie du public, continuaient leurs exercices habituels et ne semblaient nullement abattus. Seulement l'Hercule, très sanguin, devenait de plus en plus rouge. Il s'appliquait, sa démarche était un peu incertaine et ses miracles quotidiens lui coûtaient de visibles efforts. Au contraire, le mince clown, qui n'avait rien perdu de sa légèreté, s'affinait, se subtilisait de plus en plus, on le devinait pâle sous son blanc, et son corps, réduit à rien, lui donnait l'apparence d'un sylphe voltigeant dans la transparente brume des rêves. Un soir, Aurélie Guerre arriva la première au théâtre, dans un état de furie où on ne l'avait jamais vu, et ses camarades pensèrent avec raison qu'il avait dû se passer chez elle d'étranges drames. En moins de quelques minutes, elle eut brisé les grisseaux de la toilette, déchiré son costume en petits morceaux, arraché les cheveux du coiffeur, battu sur la billeuse comme plâtre et serré la cravate d'un régisseur qu'elle laissa un peu de choses près étrangler. Arquevaux, qui vint un moment après, dut sembler comme ivre. Il fit sa pyramide humaine et, pris d'une défaillance soudaine, perdit l'équilibre. Les hommes et les enfants qu'il portait tombèrent tous à la fois, mais s'arrangèrent pour tomber gracieusement et dans des poses bien dessinées, de sorte que le public applaudit, croyant à une scène arrangée et voulue. Mais dans la coulisse, pendant le pas de danse qui suivit, on s'embrassa autour d'Arquevaux. Léon Sicre insistait pour qu'il ne reparût pas en scène. L'Hercule, remis de son éblouissement passager, se dit plus solide que jamais et, malgré toutes les exhortations, entre pour ce second exercice. Mais à peine eut-il pris dans ses bras le lourd canon qu'il le laissa échapper. La masse de bronze, en tombant avec un bruit horrible, défonça presque le plancher et en même temps Arquevaux, étouffé par un vomissement de sang, s'affaissa comme foudroyé. Et il fallut l'emporter chez lui, où il expira. Quelques jours après cet événement tragique, Paul Girandel, qui se promenait au bois, fit arrêter sa voiture en apercevant le clown. Efty montait un cheval fou, grisé d'air, aux yeux hagards, dont les naseaux jetaient des flammes, et qui s'élançait en des bonds imprévus et vertigineux. Mais le serrant entre ses jambes d'acier, le cavalier forçait ce beau monstre à lui obéir, et le contraignit à s'arrêter net comme figé à la portière de la voiture. « Souffrez-vous, mon ami ?» demanda la danseuse. « Vous êtes extrêmement pâle. »«
Oui, dit Efty, je suis un peu las. Aussi Léoncic m'a-t-il accordé 2 jours de congé afin que je puisse prendre quelque repos. Et pour ne pas m'ennuyer pendant ce temps-là, je m'amuse à dresser ce cheval sauvage. »